Soleil d'un jour, c'est tous les dimanches entre 12h et 13h avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Où est-ce qu'on va aujourd'hui ?
Au rythme qu'un cas, je ne sais pas, peut-être jusqu'à Chichicastenango en partant d'Antigua, Antigua, Guatemala.
On démarre d'Antigua donc, Maurice.
On démarre d'Antigua et si j'avais cette voix un tout petit peu nostalgique, Frédéric, c'est parce que les routes, les pays... Retournez-vous, là, on vient de quitter Antigua et vous avez derrière vous les volcans. Vous vous rappelez du volcan
Agua et Fuego.
Agua, le volcan Fuego qui fume en ce moment. Et puis vous avez la Catenango, voilà, sur votre droite. Et vous avez cette immense vallée de Panchoy où s'étend, où se pose véritablement cette ancienne ville un peu abandonnée, un peu trop douce comme ça. Tout s'arrête. Le climat, l'air est toujours printanier. Vous regardez le soleil, il n'est pas trop chaud, vous sentez l'air, il est doux, le rythme même des véhicules, on avance doucement, on va faire quelques kilomètres, quelque chose comme 100 kilomètres, on va d'abord passer à Chimaltenango, rien à voir, rien à déclarer.
Le décor c'est quoi ? C'est toujours des forêts ou...
Toujours des forêts, beaucoup de pins et puis un bruissement comme ça quand on s'arrête, cette impression de trouver un peu partout des cultures qui sont presque maraîchères. J'entends par là, vous avez des petits champs de maïs, des petits champs de haricots, des petits champs de courges, vous avez tous les produits que les Indiens vont cultiver pour vivre et en même temps cette impression de vallonnement comme ça continu, de paysages infinis, ces cônes réguliers, un des plus beaux pays du monde. On va d'ailleurs vers une des régions les plus belles du monde quand on commence à se laisser glisser comme ça. Je disais Chimaltenango, bon, il y a un petit marché le dimanche, il y a une quinzaine de milliers d'habitants, puis ensuite vous passez à San Martín.
Ah oui, quand même, une quinzaine de milliers d'habitants.
C'est tout petit, ça ne se voit même pas. J'ai l'impression qu'on traverse quelque chose d'assez anodin finalement. Parce que les gens sont répartis dans la campagne, c'est un peu éparpillé. C'est un pays qui est petit, mais qui en même temps est caché. Il y a des arbres partout, il n'y a pas de murettes et de choses qui voilent la face des demeures ou de la vie. Non, les gens sont devant leur maison, vous avez la femme qui tisse, l'homme qui va à ses occupations, les enfants qui jouent. Et puis un peu plus loin, vous avez San Martín, Rio Tepeque. Alors là, bon, c'est un endroit qui a quelque chose de poignant, d'un peu pathétique. Ça a été rasé véritablement par le séisme de 1976 et... Avant, il y a eu passablement de problèmes depuis, vous savez, que le Guatemala a traversé une période de guérilla très intense. Il y a eu passablement de prises de terre par les militaires, des renvois. On nourrissait les guerrilleros, donc on attaquait. Enfin, c'est une période parmi les plus dures qu'on ait vécues en Amérique latine. Et malgré tout, tout reste maintenant, tout est redevenu.
Donc très proche de nous. Hein.
Oui, mais c'est en même temps souriant. C'est quelque chose de presque terrifiant de voir le calme. Ce que j'évoquais tout à l'heure, qui donne un côté complètement idyllique, presque poétique, qui donne même à mon ton une autre... Dès que je pense au Guatemala, j'ai le sang qui arrête son allure, j'ai le cœur qui bat plus lentement, j'ai l'impression de vivre plus pleinement. Ces gens-là ont retrouvé ce rythme, une sorte de saveur, de façon de fonctionner qui étonne. Et puis, vous arrivez jusqu'à Tecpan, on est déjà à quelque chose comme 40 km au rythme lent. Et ensuite, moi, je prendrai une petite déviation. Je m'arrêterai, pourquoi pas, il y a des constructions assez curieuses, des sortes de grandes huttes comme ça qu'un Allemand de service va créer parce qu'il a inventé la saucisse ou éventuellement les fromages. Et puis, il met quelques morceaux de bois, il coupe quelques troncs, il vous installe comme ça une table, puis une deuxième, et puis ensuite, on met un étage. Et tout à coup, vous mettez le garçon pour servir, vous faites un peu de miel.
Il y a beaucoup d'étrangers qui sont installés là-bas ?
Non, oui, au Guatemala, bien sûr. Je pensais aux étrangers qui passaient. En somme, il y a du passage parce que c'est une route assez fréquentée, mais on s'arrête comme cela. Et les étrangers qui sont établis au Guatemala, oui, quand je parlais des Allemands, il y en a beaucoup, surtout sur la côte. Et ils représentent un pouvoir économique énorme, puisqu'ils sont occupés du café, ils ont planté tout ce qui est tropical, et ils ont fait fructifier dans les terres les plus productives, disons, ces produits qui sont devenus des produits de luxe, en tout cas d'exportation. Et finalement, l'étranger a souvent une place prédominante et celui qu'on croise en fait sur la route, c'est plutôt l'indigène que j'évoquais tout à l'heure, qui lui est en marge et se sent d'office en marge depuis 400 ans. Que ce soit la guérilla qui était presque actuelle, que ce soit les événements naturels comme le séisme, que ce soit la façon de les avoir transformés par la religion... la colonie elle-même, ce sont des gens qui savent d'avance qu'ils sont marginaux. Je crois qu'à l'époque précolombienne aussi, ils avaient subi des pressions qui nous semblent souvent terrifiantes, parce que ce monde-là est un monde qui est assez dur, assez ferme. Quand on prie un dieu précolombien, on se rend compte qu'il a un côté qui est extrêmement sévère et qu'il y a un destin sur tout chaque homme. Et là, je ferai un petit détour à partir du Cotoc, là, ce petit restaurant où je me serai arrêté pour déguster quelques petites spécialités qui ne sont pas vraiment guatémaltèques, mais qui finalement le sont, parce que ça fait partie du décor et que cet exotisme...
C'est l'heure, en fait. Hein.
Comment ?
Je dis c'est l'heure, c'est midi, donc...
On pourrait très bien imaginer qu'effectivement, on aurait reçu un peu de chorizo et qu'on aurait fait griller quelques petites choses sur la braise, qu'on aurait fini avec un fromage frais... avec quelques boissons locales sympathiques. Et en l'occurrence, le détour, ce serait à l'heure où il fait peut-être un peu chaud encore, là, d'ici une heure ou deux, comme ça, aux alentours de 2-3 heures de l'après-midi. J'irai volontiers à Izimche.
Je pense à la sieste, moi.
Ah, vous pensez à la sieste? Non, moi, je pense à cet endroit. Parce que cet endroit, vous pourriez vous allonger sur cette espèce de gazon. Mais alors là, vraiment, vous êtes au milieu des pins, au bord d'un fossé incroyable, sur une sorte de forteresse qui a disparu aujourd'hui. Et puis, il y a quelques pyramides, quelques ruines, comme ça, parti dans les pins.
On est à combien d'altitude?
Là, vous tournez toujours autour des 2000 mètres quand même, hein, entre 1500 et 2000 selon la façon de rouler, de descendre et de remonter. Et là, par cette petite déviation, en visitant ce site, vous vous rappelez qu'on avait parlé de la première capitale du Guatemala. C'est là justement que la tribu maya des Kaqchikel a vécu à partir du 15e siècle. Et c'est là que, bon, il y a eu des guerriers extrêmement agressifs. Il y a eu des guerres entre les Quiché, les Tsuturil, des noms que j'aime bien évoquer. Des noms
qui font, je ne m'amuserai pas à les prononcer. Hein. Je crois que je n'y arriverai pas.
Je les prononce un peu à la maya. Et en l'occurrence, il y a eu des conflits par des gens qui étaient là, pas très loin, du côté de ce qui nous fait déjà rêver, le lac Atitlan, qu'on visitera peut-être lors d'une de nos prochaines rencontres. Et à partir de là, eh bien, c'est vrai que Izimche va accueillir pratiquement sans combat les troupes de Pedro de Alvarado, donc le capitaine de Cortés, en 1524. Et ça va devenir cette première capitale. Et on va l'appeler Santiago parce que c'est une capitale qui reste éphémère. Elle va être évacuée quelques mois plus tard. Vous vous rappelez, à la suite d'une rébellion des Kaqchikel, on va ensuite s'installer d'abord à Ciudad Vieja et ensuite à Guatemala. Ça, c'est simplement pour remettre un peu l'histoire en place. Izimche, bon, est fondée au 15e siècle, donc c'est une chose assez tardive. Vous êtes sur une sorte d'éminence rocheuse. Et là, on sent qu'il a fallu des défenses. C'est-à-dire que ces défenses naturelles ont été utilisées et on va renforcer ça par un fossé, par des remparts. On se sent menacé. C'est une période un peu difficile de l'histoire. Et il y a un homme que j'aime beaucoup, c'est un archéologue suisse qui s'appelle Guillemin, qui est allé fouiller sur place. Et il nous a fait revivre à la fois le côté du jeu de balle, certains éléments avec des murs, des banquettes. Mais il y a surtout cette impression de confort que j'évoquais tout à l'heure. La façon d'avoir restauré l'endroit fait que vous êtes dans une sorte de parc un peu magique, comme ça, avec ces pins qui ont des formes un peu japonisantes. Ben oui, c'est l'heure de la sieste, on peut s'asseoir, on peut rêver. Il y a eu un jour des guerriers, il y a eu un jour des Espagnols, il y a un jour une capitale, et puis il ne reste plus que ce vent et cette douceur de la mousse et du gazon. This is a man who needs a woman. I'm not afraid to say what I feel. I'll never be unfaithful. I've been wrong and left the lonely night. Silence is loud without a whisper. I
On vient de faire la sieste dans ce magnifique parc mis en valeur par l'archéologue Guillemin. On poursuit notre route, Maurice ?
Oui, on reprendrait la route. Et vous savez, quand on se laisse aller au détour du chemin, une petite descente, et c'est assez typique de ces pays. Au Guatemala, tout à coup, vous avez l'impression de tomber sur une foule dans un endroit où il n'y a personne. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de construction. Vous êtes sur un Y, comme ça, il y a une route qui débouche sur une autre route. Et puis tout à coup, il y a des petites constructions qui sont de toile, des gens qui vous vendent quelques fruits, un rien de boisson.
Et c'est puis, dû à quoi, ça ?
Des dizaines, des centaines de gens qui sont là, qui attendent, qui boivent. Tout simplement parce que c'est los encuentros, c'est la rencontre, c'est l'endroit qui fait que les routes se croisent et que vous pouvez partir d'un seul coup. Vous avez vu des paysages somptueux tout à l'heure avec dans la brume ou au contraire avec des découvertes solaires comme ça qui passent à travers les nuages. Il y a facilement des voiles comme ça sur le côté gauche de la route parce que tout en bas il y a un creux comme ça. On devine qu'il doit y avoir quelque chose de très beau, c'est le lac Atitlan. Alors on va le laisser pour aujourd'hui parce qu'on passe tout droit.
Ça veut dire qu'en fait ces gens travaillent autour de cet endroit de rencontre ?
Non, c'est parce que vous êtes obligé de vous arrêter là si vous voulez prendre un autre bus. C'est-à-dire que tout s'arrête ici et tout repart d'ici. Alors si vous voulez descendre sur le lac Atitlan et que vous venez de Guatemala, bah, vous laissez le bus qui continue sur Quetzaltenango et puis vous attendez le suivant jusqu'à ce qu'il y en ait un, puis il y en a un autre qui arrivera à Chichicastenango, ou l'inverse, vous attendez celui qui va à Chichicastenango. Alors les gens attendent 1 heure, 2 heures, c'est assez fréquent. Donc il y a toujours quelqu'un qui attend à Los Encuentros dans ce lieu de rencontre. Alors obligatoirement, tout s'est mis là autour comme un petit marché et il y a cette foule qui est comme ça sur le trottoir. trottoir, sur le bord de la route, en attente, dans une sorte de no man's land, le marmot, les parents, la famille complète, et puis quand ça arrive, on recharge les ballots, vous savez, il y a de la corde autour, il y a plein de toiles, on a fait le marché, il y a des moules de maïs qui dépassent, enfin, il y a une ambiance comme ça de caravane, on charge, on décharge, les bus sont incroyables, il faut pas oublier qu'en principe, dans un bus de 50 places, on peut être une centaine, et que par-dessus, il y a tout ce qu'on veut, c'est-à-dire les animaux, les quelques poules qu'on aura ramenées ou vendues ou pas vendues au marché, un petit cochon avec sa ficelle autour du cou et même tenu par le corps, en principe on le porte pour qu'il ne perde pas de poids. Enfin, on peut même avoir une grappe de petits cochons qu'on aura essayé de vendre au marché voisin. Parce que les marchés, il y en a tout le temps, il y en a tous les jours et dans tous les villages, on change de jour. Tout à l'heure, c'était dimanche. À Chichicastenango, on va se rendre maintenant, on va retomber sur le dimanche ou le jeudi. Mais juste en dessous, c'est le vendredi à Solola. Et puis, un peu plus loin, c'est de nouveau le samedi. Donc, on a un va-et-vient continu. Et puis, cette population indienne étant dispersée, on la retrouve spécialement dans ces endroits-là pour pouvoir se déplacer, se transporter. Alors, on va prendre cette route de Chichicastenango. Et on a vu, alors, sur la droite, qu'il y avait une sorte de dépression, comme ça. Et quand je dis dépression, il y a des pins, toujours, d'accord. Mais là, tout à coup, on va se trouver sur une véritable falaise, puis on se dit, tiens, c'est marrant, je vois la falaise en face, mais au milieu, il n'y a rien. Et alors, tout à coup, on se rend compte aussi que la route, elle doit bien trouver son chemin. Alors, il y a des serpents absolument incroyables et des virages en impasse.
Qu'emprunte le bus.
Qu'emprunte tous les véhicules, et puis qu'on essaie de se croiser dans ces cas-là, bien sûr. Dans les épingles à cheveux, ça n'est pas toujours évident, mais ce qui me touche dans ce petit bout de parcours, là, ces quelques kilomètres sinueux, c'est la transformation de la végétation. Parce que vous êtes dans un ravin, il y a un peu d'humidité, il y a une sorte de poche d'air un peu plus tropical, comme ça. Et cette poche, elle va permettre au pin d'être tout à coup couvert d'un tas de choses. Il y a des broméliacées, des orchidées. C'est ces orchidées qui prennent vraiment, sont des épiphytes, donc elles sont des plantes qui se collent sur autre chose et qui peuvent vivre pratiquement de rien et qui sont souvent parasites. Je dis de rien parce qu'on a l'impression, on la voit même sur les fils électriques, hein. Vous savez, les fils de téléphone ou les fils électriques qui longent la route, tout à coup vous avez des milliers de petites boules comme ça, de ton verdâtre, un vert un peu gris comme ça, et en fait elles se collent comme ça autour, et puis on peut pas vivre sur un fil électrique, ça vaut pas étrange pour une plante, mais il y a plein de ces épiphytes et de ces orchidées qui, elles, alors, au contraire, poussent sur le sommet des pins. Et en l'occurrence, là, vous auriez des grappes rouges qui ressortent comme ça. C'est vrai que c'est assez impressionnant. J'ai envie de regarder, là, de me retourner, de laisser ces virages se faire. Cette végétation, une ambiance comme ça. C'est un pays qui change d'un instant à l'autre. Tropique, sommet, air frais, air plus chaud.
Answer my prayer to give my earthly body enough.
On n'a pas fait beaucoup de chemin depuis tout à l'heure, hein. Donc on est...
Bah non, on est tout au fond maintenant.
On est tout au fond, on sort du canyon, qu'est-ce qu'on y voit?
Alors on passe d'abord la rivière et puis de l'autre côté ça grimpe avec autant de... Non mais c'est impressionnant, c'est un petit passage, on s'y attend pas du tout parce que la distance d'un bord à l'autre paraît très courte et puis quand vous arrivez tout à coup sur le plateau, ben, vous remarquez le décor du fond qui est impressionnant. C'est-à-dire que vous avez là les plus hauts sommets du pays qui sont à l'horizon. Là je pense à la Sierra des fameuses Cuchumatanes. Et les Cuchumatanes, ben, sachez quand même que le volcan Tarahumulco par exemple, monte à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est le plus haut sommet de la chaîne des Cuchumatanes. Et derrière, ben, vous auriez la Sierra Madre qui continue jusqu'au Mexique. Mais on a l'impression vraiment qu'on est sur le sommet du pays. Là, on vient de retrouver les 2000 mètres d'altitude, grosso modo. Et tout à coup, entre deux pins, crac, vous avez un village. Un village, c'est pas énorme, mais c'est sûrement l'endroit, le hameau le plus célèbre de toute l'Amérique centrale qu'on va découvrir. Alors la première image, elle est assez curieuse, c'est du vert, cet horizon fermé par la montagne au lointain, et puis le fait de voir des centaines de petites maisonnettes comme ça posées, en taches blanches les unes à côté des autres, et puis au centre, quelque chose qui se devine déjà, c'est-à-dire une église, quelques petites collines et monticules aux alentours, il y a tout de suite une impression de confort et de magie. Et quand vous abordez petit à petit, et vous approchez de Chichicastenango, déjà le nom fait chanter, hein, c'est vrai que c'est un nom bien particulier, que tous les étrangers retiennent très vite. On dit chichi quand on a envie de simplifier la chose. Et là, on va vraiment découvrir le village indien ou la petite ville indienne stéréotypée. Alors, le fait qu'on soit à 2000, il y a de nouveau une impression de... Comment vous dire cela ? Ça a quelque chose de tonique, hein, 2000 mètres d'altitude, qu'on le veuille ou non, même s'il fait très très beau. Et la réputation de l'endroit, je dirais qu'elle est aussi due à la façon d'avoir conçu le village. Il est posé comme ça sur une espèce de semi-crête. Et toutes les rues finissent quand même par converger. On plonge d'abord, on descend comme ça petit à petit sur une place. Alors, je suis obligé de la mettre en condition. C'est-à-dire que vous avez une place qui est pavée, comme ça, en forme rectangulaire. Il y a quelques petites arcades de côté, des couleurs qui laissent tomber peut-être le blanc avec un peu d'orange, avec du vert, un peu de bleu, juste pour agrémenter cet endroit. Et puis, le premier choc, si vous arrivez... Moi, j'aime bien arriver dans les jours vides, parce qu'un village vide, c'est un village qui vit normalement, tout simplement.
Et quels sont les jours vides?
Alors, les jours vides, ce sera le lundi, le mardi, le mercredi jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. Puis ensuite, il y a l'explosion de la préparation du marché. Le jeudi, où vraiment, on se dit, c'est pas possible, ça peut pas être la même ville. Ça se recalme le vendredi. Le samedi, ça recommence à s'animer. Et le dimanche, ça réexplose.
Mais à part les marchés, les gens vivent, les autochtones qui sont donc dans ce village vivent de quoi?
Alors du commerce d'abord, c'est-à-dire obligatoirement le marché signifie, c'est un des plus grands marchés du pays, non seulement sur le plan indigène.
À 2000 mètres d'altitude, est-ce qu'on cultive?
Tout. On a des champs de maïs jusqu'à plus de 3000 d'altitude qui s'accrochent même aux pentes des collines et des montagnes, et on a souvent l'impression d'un patchwork qui tourne à la verticale. On sent cette ligne qui monte comme ça, un peu comme la veau, hein. Si vous preniez les vignes, on accroche des champs de la même manière. Donc le patchwork est partout. Et la forêt recule justement à cause de cette façon de grignoter, parce que l'Indien a besoin de terre et qu'il en manque, et on ne lui a laissé que ces terres-là. Donc obligatoirement, vous me demandez comment vit Chichicastenango. Aujourd'hui, ça vit surtout du tissu. Et quand je dis tissu, ça paraît totalement incroyable. C'est que j'ai connu ce hameau presque vierge, comme je l'écrivais tout à l'heure, y compris dans les jours de marché où il n'y avait que des produits à échanger qui faisaient partie de la vie locale. C'est-à-dire, vous pouviez trouver, je ne sais pas, le bois, par exemple. Tout bêtement, le bois, on en a besoin pour cuire ses aliments. Et bien, vous aviez des tonnes de bois bien découpés, du pain... Vous savez, le cœur du pain a une sorte de résine. Alors, on a fait des petits paquets à part, c'est bien ordonné. Juste à côté, vous auriez le potier. Puisqu'on parlait du bois, vous auriez les coffres qui sont peints, qui sont préparés, posés sur des petits tréteaux pour les mettre dans un coin de la pièce, parce qu'en fait, on a très très peu de meubles. Le coffre servirait à mettre des habits. Un peu plus loin, vous auriez tous les étals qui servent uniquement à l'alimentation, c'est-à-dire les fruits, les légumes, mais à la fois par terre et à la fois sur des véritables petits stands avec une toile par-dessus. Et puis, vous auriez un petit coin avec des dizaines et des dizaines de petits restaurants qui sont établis comme de simples stands, une fois de plus, avec des petits bancs de couleur, des petites chaises de couleur.
On mange dans la rue.
On mange complètement dans la rue. Mm-hmm. Et vous auriez les produits alors qui correspondent plus à la religion et au rituel, parce que dans les moments de marché, vous allez le voir, on se retrouve spécifiquement à cause de cette place que je n'ai pas fini de décrire. C'est-à-dire qu'en fait, la première chose qui vous marque quand vous arrivez sur la place, c'est un escalier de forme arrondie, c'est-à-dire un peu comme si vous aviez quelque chose qui monte petit à petit comme un flanc en marche successive comme ça, je crois qu'il y en a 18 qui vous permettent d'arriver sur un perron toujours lui-même arrondi, et puis une église derrière, typiquement coloniale, qui a été repeinte et repeinte avec un soupçon de clocher, un toit en pente tout simple, et puis cette arcade qui permet d'y pénétrer, c'est-à-dire cette voûte d'introduction. Et là, vous vous rendez compte que c'est un point fort, immédiatement, parce que s'il fait jour, à l'instant où il fait jour, ben, vous allez remarquer que dès l'aube, quelqu'un arrive au pied des marches, et au pied de ces marches, il y a une sorte d'hôtel. Quand je dis hôtel, c'est un bloc qui ressemble à un bloc de briques ou de béton, tout ce que vous voudrez, mais qui est tellement patiné aujourd'hui, tout simplement parce que sur ce bloc même, on dépose systématiquement des pains d'encens qui vont brûler toute la journée. Et à l'opposé, il y a l'odeur d'abord, vous trouvez une deuxième église. Plus petite, la grande, la petite, le rectangle, le cœur de Chichicastenango.
The place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway. Band followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, with friends around her. The nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. Desire and ambition, there's a hunger still unsatisfied. Our weary still straight to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener. The light was brighter. The taste was sweeter. The nights of wonder. With friends surrounded. The dawn mist glow.
Nous sommes au cœur de Chichi Castelnuovo, juste devant le perron de cette église. Hein. Pink Floyd va nous offrir carrément les cloches.
Oui. C'était très bien hier.
On y pénètre ?
Pourquoi pas ? Mais avant, il faut monter les marches. Et lorsque tout s'anime, à l'heure du marché par exemple, lorsque les paysans sont venus de tous les villages lointains, eh bien, il y a cette ferveur. Et je crois que ce n'est pas l'architecture qui va vous impressionner, c'est cette ferveur. J'évoquais ce foyer qui brûle en permanence toute la journée. Il n'a rien de chrétien, il est placé sur le perron même de l'église. Et les paysans arrivent, les sorciers sont là, des familles entières qui les suivent. Alors on dépose d'abord ce copal et puis ensuite on monte les marches en tenant dans sa main. Par exemple, auparavant j'ai connu des encensoirs en terre. Maintenant c'est simplement une boîte de sardines avec quelques fils de fer. Et à l'intérieur il y a du charbon sur lequel on met de l'encens. Et on fait sa confession publique à l'extérieur sur le perron. Alors vous avez des dizaines, voire parfois des centaines de
C'est-à-dire
personnes.
C'est-à-dire sa confession publique.
Les gens parlent, les gens prient, les gens racontent leur histoire, ils parlent à leur Dieu.
Se parlent entre eux.
Ils font ça tout seuls. Je veux dire, vous pouvez vous-même parler à haute voix avec 10 autres personnes qui parlent à haute voix. Il y a une sorte de bourdonnement.
Voilà,
comme
ça doit être une cacophonie.
À total. Je veux dire, mais ça se fait très 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 calmement en même temps. Alors il y a le balancement de la cassolette qui fait que l'encens remplit le perron de ce brouillard bleu. Et puis vous avez toujours cette voûte qui est devant vous. Vous avez envie de pénétrer, mais vous êtes déjà fasciné par cette première image. Il y a même des gens en fin de journée qui vont venir déposer des cierges à l'heure où la porte se ferme. Eh bien, elle est encore couverte de lumière parce que les gens continuent à prier devant ce perron dans l'obscurité en balançant ces encensoirs. Et cette voix qui répète sans cesse à la fois le nom des dieux d'aujourd'hui, parce qu'on va retrouver tous les saints, mais en même temps on va retrouver tous les saints précolombiens, si j'ose dire. Il y a toutes les divinités qui elles-mêmes existaient auparavant. Et puis quand vous pénétrez à l'intérieur, on comprend tout de suite qu'il n'y a pas de prêtre. Il y a des autels qui sont des sortes de petites estrades basses de forme rectangulaire. Et il y en a 9 comme ça qui vous font avancer jusqu'à l'autel principal. Et sur chacun de ces autels, il y a de nouveau des offrandes. Alors les gens viennent avec des pétales de rose, avec de l'alcool, avec du maïs, toujours leur prière.
Chaque offrande a une signification
bien sûr,
bien précise.
Même les bougies ont des couleurs différentes, même les pétales sont offertes de façon différente. Dur un pétale, je crois. Et en l'occurrence, il y a aussi le fait d'apporter du maïs, par exemple. Vous venez avec votre grain de maïs, mais que vous aurez laissé en épi, comme cela, et, simplement pour favoriser vos prochaines cultures. Il y a l'idée de la maladie. Enfin, tout va être traité de cette façon. Et puis le prêtre sous la forme du chaman, enfin le sorcier qui serait là et qui accompagnerait une famille, vous allez peut-être le retrouver un peu plus tard. On les appelle les Chukahao. Eux vont faire une sorte de circuit. Alors, bon, d'or, vous avez le brouhaha du marché, et actuellement il est beaucoup plus animé qu'on l'imagine parce qu'il y a vous, parce qu'il y a nous, parce qu'il y a eux, c'est-à-dire les touristes qui viennent de plus en plus nombreux et qui savent tous que le jeudi et le dimanche il se passe quelque chose, et puis l'Indien qui sait qu'il peut vendre quelque chose aux touristes. Donc auparavant on achetait quelques couvertures, quelques huipils, vous savez, la blouse des femmes, mais aujourd'hui il y a des blouses et des huipils et des foulards et des choses de couleur et des choses brodées partout. Les petits gilets qu'on porte aujourd'hui chez nous, les petits sacs qu'on porte aujourd'hui chez nous, tout ça a été fait dans du tissu normal qui est encore fait à la main sur les métiers à tisser que les hommes en général activent avec leurs pieds en travaillant avec la navette. Ben, ça, vous vous trouvez ça par camion entier maintenant. Vous avez la ville entière, le village entier qui va se couvrir. Toutes les parois des maisons vont se couvrir de tissus. On ne fait qu'acheter et vendre. Là, vous comprenez mieux le côté commercial que j'évoquais tout à l'heure. C'est devenu un immense, c'est péjoratif, mais il y a un côté bazar. Et derrière tout cela, tout ce que je vous évoque continue à exister. Et quand on est dans l'église, on se dit, ben, c'est vrai, ce sorcier va partir, il va sortir, il va suivre le petit chemin qui va à l'extérieur, il va se retrouver sur une colline qui est un peu plus loin, qui est beaucoup plus cachée, qui serait Pasquale Labarre. Mais petit à petit, entre touristes, on se dit, allez voir Pasquale Labarre, montez sur Pasquale Labarre. Il y a des heures où il y a plus de touristes que de sorciers sur le même endroit, mais c'est un lieu assez, assez curieux. Moi, j'aime beaucoup le voir la nuit, ou au moment où justement le touriste n'est pas forcément là. Je n'ai pas forcément envie de donner l'idée non plus, mais ce qui est impressionnant, c'est que quand il y a vraiment un rituel fort comme cela qui s'y passe, bah, il y a d'abord une simple statue. Une statue un peu douce et ricanante à la fois. Elle n'est pas très haute, elle fait 60-70 cm. Je l'ai même une fois recollée à la ralite parce qu'elle risquait de sauter. Et elle est placée comme ça sur un petit monticule.
On vous a laissé faire.
Entre les pins. Oui, oui, d'ailleurs, elle se porte bien. On voit encore la fissure. Et autour, il y a des croix de pierre. Donc, il y a à la fois le côté chrétien, le côté païen. C'est une statue précolombienne, bien sûr. Et puis, des petits autels comme ça. Des sortes de refuges pour le feu et une sorte d'abri aussi pour les flammes plus vacillantes des bougies et des cierges et des offrandes. Et non seulement on va activer ce côté encens, feu, offrande, alcool, pétales, etc. Mais là, par exemple, on fait souvent des sacrifices d'animaux. On sacrifie volontiers un coq ou une poule. Et là, alors, les gens s'agenouillent, font le tour sur les genoux même. Il y a des moments absolument poignants et une force. Et puis ce sorcier qui n'arrête pas de parler, qui tient son bréviaire ou un petit carnet de notes et qui peut rester comme ça pendant des heures jusqu'à ce que le rituel se termine et que la magie s'accomplisse. Et au moment où tout s'éteint, où on a cassé le dernier œuf, où on a offert la dernière chose, on sait qu'on devra encore aller dans une grotte, on devra encore aller au cimetière. Tiens, au cimetière, il est aussi à l'extérieur de la ville. Voilà un endroit complètement fou. Il y a des endroits qu'on choisit parce qu'il y a eu un prêtre un peu plus sain qu'un autre ou parce que la tombe d'un tel était un ancien sorcier. Vous voyez que les gens ont des circuits et que chaque sorcier a créé son propre circuit. Bah, le même rituel va reprendre dans le cimetière même. Et puis ensuite, on ira éventuellement dans un autre coin de campagne. J'évoquais la grotte, mais ça peut être un bord de rivière. Donc on sent que tout à coup, le monde entier, le cosmos qui est autour de nous, vit. Et vit à travers le sorcier. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm with your love, then you softly lean. And it's me you need to show. How deep is your love?
How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you.
To a better song. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? It's me you need to show. How deep is your love?
Les jours qui sont plus forts que d'autres, ce sont les jours de fête. L'église que l'on admirait tout à l'heure avec sa petite voisine, celle qui lui fait face, eh bien, elle est dédiée à Saint Thomas. La Saint Thomas, c'est le 21 décembre. C'est la plus grande fête qu'on puisse voir à Chichicastenango. Alors ça, c'est une explosion qui va mettre en cause aussi l'église du Saint-Sépulcre qui est en face. Mais on va sortir les saints principaux. Il y aura Saint Thomas avec le petit Saint Thomas dans une espèce d'extraordinaire explosion de plumes, de miroirs, de choses argentées. C'est une sorte de chaise à porteurs qui monte à 400 mètres de haut avec le décor comme ça un peu souple, les tissus, la couleur, le rouge. Et puis tout cela va sortir en procession. Et quand je dis procession, on n'imagine pas ce que c'est. Il y a d'abord des confréries religieuses dans ce village qui sont très fortes. Je crois qu'il y en a même
14.
Combien
d'habitants déjà à Chichicastenango?
Chichicastenango, c'est pas un gros bourg en soi. Ce qui compte, c'est les gens qui vivent aux alentours. Disons, on a l'impression que c'est un bourg de 2-3 000 habitants, mais en fait, dans les fêtes, on peut être 30 ou 40 000. Donc
grosse procession.
On vient de partout. Et quand je dis procession, c'est que tout est occupé. On a presque envie de pousser les bancs du marché. La place est noire de monde. Il y a un mât au centre avec deux singes qui descendent, enfin des hommes qui s'habillent avec un masque et qui se laissent tomber au bout d'une corde. Vous en avez une qui descend depuis l'église avec le fameux petit protecteur des artificiers qu'on appelle Tzolrolar. C'est un petit Saint-Jacques de Compostelle en bois peint de façon très enfantine comme ça et qui porte d'ailleurs le nom, son propre nom inscrit à la plume. Et puis il descend la corde comme ça, on le tire. En même temps, vous avez l'artificier de service qui pose une sorte de canon incroyable sur les marches. Vous savez, c'est un énorme tube de métal qui est posé sur une plaque elle-même assez lourde. À l'intérieur, il met une sorte, on voit très bien que c'est de la feuille de papier ou éventuellement de la feuille de maïs, une grosse boule comme ça avec une grande mèche. Alors il met sa boule au fond, il l'allume naturellement et vlan, la boule monte comme ça à 50 ou 100 mètres de haut et elle explose tout en haut. Il y a deux explosions, bien sûr. Et il y a vraiment de quoi se boucher les oreilles. De temps en temps, ça redescend. Et puis en même temps, vous avez les artificiers eux-mêmes avec des faisceaux absolument incroyables de fusées et de pétards qu'ils tiennent entre leurs bras. On les voit passer dans la procession en même temps. Et chaque fois qu'il y a un arrêt quelconque, que ce soit pour Saint Thomas, pour Saint Sébastien qui le suit, eh bien, allez, on fait partir quelques dizaines de pétards. Ça saute de partout. Il y a des grenouilles qui explosent. C'est vraiment une débauche absolue. Il faut vraiment le vivre pour imaginer que ça puisse exister.
Et cette débauche, c'est jour et nuit ou uniquement?
Alors, ça dure 5 jours.
Ça dure cinq jours.
Sur le parvis de l'église, on va mettre un orchestre, je dirais pas pop, mais avec des haut-parleurs incroyables pour couvrir les petites flûtes et les tambours de la procession. Il y a une sorte de concurrence entre le monde des ladinos qui sont un peu métis et puis les indiens qui continuent à faire leur procession de façon réglementaire et pagano-ancienne, si vous voulez, enfin pagano-chrétienne. Et c'est vrai que dans ces moments-là, il y a le côté beuverie aussi, bien sûr, parce que l'alcool fait partie de la fête.
Qu'est-ce qu'on y boit là-bas?
Oh, bon, de la chicha, c'est un alcool qui est souvent une espèce de chose un peu jaunâtre qui est faite avec du maïs ou alors de l'alcool fort, pourquoi pas. On peut aller jusqu'aux alcools à 40 degrés qui sont transparents. Tout est possible. La bière.
Donc bourré jour et nuit pendant 5 jours.
On peut avoir ce côté un peu plus vulgaire dans ces moments-là et je vous dirais même que c'est le seul endroit où j'ai remarqué que les gens âgés, par exemple, étaient capables de se suicider par l'alcool. C'est-à-dire quand on a décidé qu'une vie n'avait plus de valeur, eh bien on peut fêter une dernière fois comme ça. Alors bien sûr qu'on en trouve le matin un peu partout, mais ça choque des fois un peu l'étranger. Et il ignore que c'est particulièrement l'idée même de la fête, hein, c'est l'excès. Alors j'évoquais cela par rapport à ces confréries, c'est vrai qu'il y a des congrégations comme ça, et puis chaque fois qu'on va accéder à un rang, eh bien on va transporter une nouvelle statue, on va se rendre dans une maison où elle va vivre un moment. Les choses ne vivent pas dans l'église finalement, les confréries sont des choses qui appartiennent au chef même de la confrérie et puis à tous ses confrères. Donc l'objet sacré vit comme un habitant du lieu. Donc on va changer de maison chaque année à chaque nouveau poste, si vous voulez. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est le côté qu'on ressent à travers ces saints qui sont des patrons de toutes ces confréries. Ce qu'on ressent surtout, c'est qu'il y a une sorte d'intermédiaire entre l'homme et toutes ces puissances occultes, comme tout à l'heure entre le sorcier et l'humain. Et on sent chaque fois cette obligation d'un passage, hein. Il y a même des communions, il y a des choses très étranges qu'on voit pendant ces fêtes. Et au fond, on était venu pour voir certains produits s'échanger. Je parlais des huipil. On a l'occasion ensuite de s'intéresser petit à petit à tous ces gens parce qu'on les reconnaît. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que les femmes qui portent le huipil de Chichicastenango ont une sorte de soleil autour du cou, comme ça, qui est brodé. Et puis, elles ont le côté très fleuri de leur vêtement qui est entièrement travaillé au brocart. Et puis, vous voyez d'autres costumes qui viennent d'autres villages. L'homme est souvent habillé de noir, une sorte de feutrine noire étrange, un peu tenue comme ça entre les jambes, avec un petit liseré rouge sur le bord du genou, avec le mollet bien nu, avec des sandales aux pieds. Et puis, il porte une sorte de jaquette qui est repris de l'uniforme militaire du siècle dernier. Et sur la tête, il a un superbe carré brodé rouge avec des grands pompons. C'est vous dire qu'il y a vraiment un côté extraordinairement folklorique pour nous, en tout cas.
Est-ce qu'il y a des militaires donc qui font partie de cette procession?
Alors non, pas du tout.
Pas du tout.
Le côté officiel ne suit jamais l'indigène. Donc,
même au niveau de la musique, même au niveau de l'orchestre?
Non, alors ce que vous attendriez par fanfare, hein. Choses comme ça, non. Il y aura éventuellement cette concurrence que j'évoquais tout à l'heure avec des orchestres ou des haut-parleurs. Mais non, alors, le côté militaire ou voire policier, au pire, bon, il y aura peut-être un peu de surveillance, mais en fait, c'est un monde indien, donc les Indiens
donc
le vivent entre
eux.
C'est une bonne chose, et ça, on ne sent aucune forme policière. On ne sait même pas comment fonctionne la fête. Il faut des années, et je l'ai suivi pendant des années, et je l'ai fait vivre pendant des années à ceux qui ont apprécié le Guatemala. Eh bien, il faut définitivement y retourner, ou en tout cas prendre le temps sur ces 5 jours ou lors d'une fête quelconque, qui dure toujours 5 jours finalement. Il faut prendre le temps de faire attention, ne pas écouter forcément le pétard qui vous trouble et qui vous fait croire qu'il se passe quelque chose ici pendant qu'il se passe quelque chose ailleurs. Mm-hmm. Hein, ça, c'est typiquement indigène. Et en l'occurrence, souvent, les suivants, ou en commençant à connaître quelqu'un dans une procession et dans une de ses confréries, eh bien, il suffit de vous coller un peu comme un poisson pilote, comme ça, et puis de suivre son parcours. Et là, on commence à saisir tout le déroulement avec ce côté sacré, avec ses fonctions qui changent à chaque heure, à chaque minute, à chaque moment de la nuit ou du jour. Eh bien, ces 5 jours vont se dérouler de façon extrêmement mathématique dans un désordre qui nous paraît totalement absolu et qui en fait au contraire est réglé, parce que quand on y retourne l'année d'après, on voit le mât au même endroit, la fête au même endroit, le pétard au même endroit, l'encens au même endroit, tout est absolument orchestré dans une foule qui nous paraît complètement éclatée et chaude, très colorée.
Nous on se retrouve dimanche prochain.
Oui, on pourrait peut-être se déplacer un peu en reprenant le canyon, et pourquoi pas, il y a toujours ce lac qu'on n'a pas encore découvert, le plus beau d'Amérique centrale.